Les femmes ont une sexualité de service, si elles ne le savent pas. Bienvenue sur Cœur de Michto, le podcast de l'égalité amoureuse. Je suis Ellie, podcasteuse mais aussi formatrice. J'anime des ateliers d'éducation populaire sur l'égalité amoureuse et tu peux retrouver sur mon site cœurdemichto.com des informations sur ces ateliers, notamment sur l'atelier gratuit « Comment obtenir plus en faisant moins ». Aujourd'hui, dans cet épisode, je te parle du film Barbie. Évidemment, en tant que spécialiste de l'égalité amoureuse, je pouvais difficilement passer à côté de ce film. Attention, cet épisode comporte quelques spoilers. Alors, pour cet épisode, je vais endosser une autre casquette que la casquette habituelle. Je vais endosser aussi ma casquette de scénariste, parce que à la base, je suis autrice et je suis particulièrement spécialisée dans la question des scénarios. Alors, en tant que scénariste, je n'ai pas aimé le scénario de Barbie. Je n'ai pas aimé le scénario de Barbie. Pourquoi? Parce que je crois qu'un bon scénario, c'est un scénario qui respecte la personnalité des personnages, qui doit avoir une certaine un côté organique, qui se développe d'une façon entre guillemets naturelle, et je trouve que ce film ne respecte pas la personnalité de Ken. Donc bien sûr je vais parler des enjeux féministes qu'il y a dans ce film et puis aussi des enjeux sur l'égalité amoureuse que je trouve très intéressant, mais la personnalité de Ken, si tu as vu le film, tu sais que Ken est obnubilé par une chose, il veut l'attention de Barbie. C'est la manière dont ils ont montré un personnage qui a été créé, effectivement c'est un accessoire. Ken, c'est autant un accessoire que la voiture de Barbie, la maison de Barbie, l'avion de Barbie. Ken a été créé pour être à côté de Barbie, donc c'était effectivement très intelligent d'utiliser cet arc-là pour parler de l'égalité amoureuse. Donc dans le monde de Barbie, effectivement, il nous le présente comme si c'était un monde inversé, un monde où effectivement les femmes ont tout pouvoir, et donc du coup ça va faire un choc des cultures quand Ken va réaliser que dans le vrai monde, ce sont les hommes qui dirigent. Et là où le scénario va le traverser quand même, mais d'une façon que j'ai trouvé maladroite et pas assez bien amenée, c'est que la motivation première de Ken, c'est pas d'être respecté, comme il le dit, c'est sa motivation première, c'est d'avoir l'attention de Barbie, et ça reste sa motivation jusqu'à la fin, et c'est cette motivation-là qui fera qu'à la fin les choses s'apaiseront. Donc, si les. Enfin. Ça aurait pu être intégré dans l'arc narratif, en faisant en sorte de montrer que Ken ne met en place ce patriarcat de cheval que parce qu'il veut l'attention de Barbie. On aurait dû avoir des scènes où il essaierait de capter l'attention de Barbie et serait déçu de ne pas l'obtenir et ne comprendrait pas pourquoi il ne l'obtient pas, parce qu'effectivement le personnage de Ken est aussi un peu con. C'est une des choses que j'ai pas tant kiffé que ça dans le film, et je l'ai pas kiffé en tant que féministe. J'expliquerai juste après pourquoi. Bref, on aurait dû avoir une scène où effectivement on comprendrait qu'en fait tout ce qu'il le fait, il le fait pas pour lui, il le fait pour obtenir l'attention de Barbie, pour qu'elle le voit comme quelqu'un d'intéressant. Et que peut-être effectivement un peu par bêtise il comprendrait pas pourquoi elle n'apprécie pas qu'il change complètement son monde, qu'il la foute dehors, qu'il prenne possession de sa maison, qu'il la redécore. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui correspond pas à son personnage. Après on pourrait se dire qu'effectivement il a accumulé une frustration, et au début du film sa frustration est tournée vers les autres Ken. Comme il veut l'attention de Barbie, en fait il en veut aux autres Ken de parfois l'obtenir à sa place, et donc du coup son agressivité est tournée vers les hommes. On aurait pu utiliser cet arc parce qu'effectivement le patriarcat de cheval des Ken est un peu agressif, c'est le moins qu'on puisse dire. Il aurait fallu montrer si c'était vraiment un arc dans la personnalité de Ken, et je trouve que ça n'y a pas eu d'arc en fait, il y a un changement brutal de personnalité où les motivations sont pas continues. Montrer par exemple un début de passif-agressivité envers Barbie, quelque chose où il commencerait à tourner son agressivité non pas vers les Ken mais aussi vers Barbie. Donc effectivement je trouve que cet arc narratif par rapport au personnage de Ken, je le trouve pas très smooth, je le trouve pas très fluide, je le trouve pas très... Et je suis très étonnée quand je vois des gros films comme ça avec des gros budget, de me dire quand même, ils ont sans doute les meilleurs scénaristes d'Hollywood. Comment est-ce qu'ils peuvent faire un truc comme ça, enfin quand on fait un scénario, si le personnage fait un truc qui lui ressemble pas, c'est un échec en fait. Normalement ça se passe pas comme ça. Bon, il y a d'autres trucs. J'ai décidé de commencer par les trucs que j'aimais pas dans Barbie. Mais bon, bref. L'autre point que je n'ai pas aimé, c'est qu'effectivement, les personnages un peu cons, bah, tous les mecs sont cons. Les Ken sont cons, le mari de la propriétaire de la Barbie est con, les patrons exécutifs, tous les gens qui bossent à Mattel sont cons, et donc du coup il y a une espèce de discours sous-jacent qui dit en fait le patriarcat est là parce que les mecs sont cons, et c'est pas le cas. c'est pas ça qui est derrière le patriarcat, c'est pas la connerie, c'est il y a l'histoire de pouvoir, d'enjeu de pouvoir, etc. Et je trouve que j'ai pas trouvé que c'était très efficace en termes de vision féministe que de mettre ce truc-là. Même si j'ai trouvé extrêmement drôle, effectivement, les petites conneries anecdotiques, inoffensives de Ken quand il se met 50 paires de lunettes. Il y a des trucs très très drôles. Mais voilà, je trouve que c'était pas efficace d'un point de vue féministe de présenter le patriarcat comme quelque chose porté juste par des gens stupides. Bref, je retire ma casquette de scénariste et je remets ma casquette de spécialiste de l'égalité amoureuse, parce que je trouve que ce film montre de façon extrêmement puissante, avec cette situation de Ken, c'est la question de l'overgive et la question de l'overgive dans une dimension qui est pas souvent mise en avant. Si tu connais mon podcast, tu sais que dans l'épisode 4, l'épisode 4 de Ellie et l'amour, c'est ma conclusion de toute ma recherche sur l'hétérosexualité. C'est que la raison pour laquelle on en fait trop, en termes de travail gratuit, en termes de travail sexuel notamment, c'est parce qu'on est en recherche d'attention. Donc je trouve que ce Ken qui cherche l'attention de Barbie, je trouve qu'il montre de façon très puissante ce que c'est que cet overgive d'attention. Pour moi, en tant que spécialité de la, en tant que spécialiste de la l'égalité amoureuse, l'inégalité, elle vient justement quand il y a un des deux qui donne trop, qui a une polarité qui est en déficit parce qu'elle donne trop. Et pour moi, cet overgive, il se manifeste pas seulement dans un overgive de travail gratuit. Quand je dis un overgive, il y a trois façons de faire de l'overgive dans un couple inégalitaire. Donc il y a cet overgive de ressources, et donc la ressource ce n'est pas que le travail gratuit, mais c'est aussi un overgive de temps, un overgive d'argent. En fait, on fait souvent passer les femmes pour des êtres très drivés par la question vénale, alors qu'en réalité, quand on regarde qui contribue le plus au couple de façon désintéressée sur les choses du quotidien, en fait les femmes se font vachement plus bananer dans l'équation. Donc il y a un overgive, les femmes ont un overgive d'argent en fait, elles font un overgive de travail gratuit, de temps, mais aussi d'argent. Voilà, donc ça c'est l'overgive autour des ressources. Mais la raison pour laquelle ces trucs-là existent, pourquoi est-ce qu'on donne trop, il y a quelque chose à la racine, à l'origine de ce truc-là, qui est l'overgive d'attention. Il y a aussi un troisième overgive qui est l'overgive d'intimité. Ça, le film Barbie l'aborde pas tellement, je vais pas trop l'aborder, mais voilà. Donc, dans ce monde imaginaire de Barbieland, c'est censé représenter un monde inversé. Et je pense que ce monde inversé, il montre certains aspects, mais il n'est pas réellement inversé parce que s'il était réellement inversé, les Ken seraient au taf et ils le sont pas. D'ailleurs, c'est bien une des choses qui sont mises en avant. Les Ken ne taffent pas, ils ne travaillent pas, puisque tout l'univers, tout l'empouvoirment entre guillemets des femmes dans le monde de Barbie est porté par le fait qu'elles ont un travail qui les porte, qui les passionne, qui est parfois ambitieux, parfois pas, parce qu'il y a aussi une Barbie postière qui apporte les lettres. Il n'y a pas que les Barbie prix Nobel, astronautes, présidentes. Mais voilà, donc dans cet univers-là, comme l'empouvoirment des femmes est apporté par ce travail, les Ken n'ont pas de travail en opposition. Donc c'est pas un monde qui est pas totalement en opposition, parce que les Ken ne font pas de travail gratuit, au point même qu'ils sont incompétents dans la plupart. Enfin, dans la... Ken, le personnage principal de Ken, lui, il est compétent en plage. Voilà. Donc cette inversion n'est pas totale parce qu'il n'y a pas ce truc d'overgive de travail, alors même que quand ils amènent le patriarcat de cheval, je trouve ce détail incroyablement drôle. Vraiment, ce truc de, il se dit le patriarcat c'est les chevaux, ça j'ai trouvé ça très très drôle de dire, ok, ils se sont dit comment une poupée pourrait penser, pourrait voir nos concepts d'humains avec cette façon simpliste de ce monde très très stéréotypé des Barbies. Ça j'ai trouvé ça super drôle. Mais en fait, dès qu'on arrive dans ce monde de patriarcat, bah, les meufs sont au taf en fait. Elles sont en train de masser les pieds des Ken, elles sont en train de leur apporter des boissons. Et il y a cet enjeu du travail gratuit qui est pas tellement mis en avant chez les Ken. Alors, c'est possible qu'il y ait des scènes peut-être où ils font des massages à des Barbie, où ils apportent des boissons. Ils font les pom-pom girls aussi, il y a ça aussi. Ils les encouragent. Mais cette inversion, voilà, je trouve que il y a une espèce de simplification de dire voilà ce que serait le monde inversé. Non, non, pas trop, pas vraiment, parce qu'il y a que cet overgive d'attention où Ken ne vit que au travers du regard de Barbie. Donc l'inversion, elle est limitée, mais elle est puissante. Parce qu'effectivement, ça paraît absurde de voir ce Ken qui ne vit qu'à travers des quelques secondes qu'elle va lui apporter. Et ça, par contre, je trouve que c'est une belle représentation de ce que c'est que le monde patriarcal où les femmes, on leur dit que l'amour est tellement important, que les mecs sont tellement importants, que l'attention des gars vaut tellement, qu'elles ne vivent qu'à travers ça. Donc la morale de l'histoire à la fin, où le patriarcat des chevaux n'a été mis en place que parce que les Ken se connaissaient mal, je trouve que c'est une conclusion hâtive. Je dirais plutôt que le patriarcat avec des femmes au service des hommes ne vient que du fait que les femmes se connaissent mal, qu'on les encourage pas à se connaître, qu'on leur fait croire que c'est pas intéressant, que c'est pas important, que ce qui est important c'est l'attention des mecs. C'est toute cette question effectivement de ces femmes qui connaissent mal leur corps et qui finissent par accéder à plus de plaisir, plus d'orgasme, passer la quarantaine, cinquantaine, à un moment où elles finissent justement par se défaire un peu de cette idée que ce qui est le plus important c'est le regard des hommes, à force d'avoir joué le jeu et s'être rendu compte que ça valait pas la peine. Au bout d'un moment, quand même, il y en a pas mal qui finissent par comprendre que ça le vaut pas et à mettre plus d'attention sur elles-mêmes et à se connaître, à savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, ce qui leur fait envie, ce qu'elles ont envie d'accomplir. Et dans les ateliers sur l'égalité amoureuse que j'anime, cette question justement de l'overgive d'attention, elle est très présente. Il y a des ateliers qui sont vraiment autour de cette question de comment, autant en tant que célibataire qu'en tant que meuf en couple. Du côté des célibataires, il y a toute cette question de comment est-ce que quand on on commence à rencontrer quelqu'un, une dynamique saine et équilibrée va conduire à ce qu'on n'accorde pas 100% de notre attention à penser non-stop à cette personne. Quand est-ce que je le revois? Et qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce que j'étais bien assez bien habillée? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi est-ce qu'il m'écrit pas? Etc. Ça, c'est de l'overgive d'attention. Et c'est un point qui, du coup, c'est quelque chose, c'est une énergie mentale en fait. Cette overgive d'attention, elle se met, ça pourrait être moins quantifiable que donner trop de temps, trop de travail, trop d'argent. Mais à la base, en fait, si ce truc-là est en place, si on a trop d'attention tournée vers l'autre, tous les mécanismes qui vont suivre, qui vont découler de ce surplus d'attention qui est donné au mec, va construire les bases d'une relation inégalitaire pour la suite. Donc c'est vraiment un truc dans les ateliers, pour les nanas célibataires, quand on rencontre un mec, en fait, le niveau d'attention qu'on lui accorde, c'est pas du dédain, c'est pas on en a rien à foutre de lui, mais on n'est pas dans de l'overgive d'attention. C'est vraiment un truc qui est hyper dangereux. J'avais vu un truc que j'avais trouvé très drôle. C'était une statistique sur le fait que plus une femme va montrer des photos du gars qu'elle date à ses potes et en parler à ses potes, à ses proches, à sa famille, etc., au début de la relation, et plus le risque est élevé qu'elle se fasse ghoster. Et c'est assez étonnant parce qu'on peut se dire, mais en fait, le mec, il est pas là dans la pièce quand t'es en train de parler de lui alors que tu l'as rencontré quelques jours avant à tes potes. Il le sait pas que tu parles à tes potes de lui. Comment ça se fait que ça a un impact sur son comportement? Donc bien sûr, on sait au niveau des statistiques que causalité et... c'est quoi le mot? Causalité et conséquence? Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est quoi le mot, mais un mot qui veut dire que quand on a deux chiffres, une statistique, ça veut pas dire que l'un provoque l'autre. Parfois, c'est juste... Ah oui, c'est ça, causalité et corrélation, c'est ça le terme. Donc en fait, c'est pas une causalité, c'est pas parce qu'on parle à nos potes que le mec est au courant qu'on parle à nos potes de lui et que du coup il décide de nous ghoster. C'est juste une corrélation, c'est-à-dire que plus on en parle à nos potes alors qu'on vient juste de le rencontrer, plus il y a des chances qu'on fasse plein de trucs autour qui montrent ce surinvestissement et qui fassent que le gars en face, ben, il y a quelque chose de l'ordre de l'acquis, quelque chose de l'ordre de... Il y a pas de... Il peut pas y avoir de désir parce qu'il n'y a pas de distance en fait, parce qu'on est déjà trop, on est déjà en train d'essayer de réduire la distance à la place de l'autre, de faire le taf à la place de l'autre, d'être surinvesti à la place de l'autre. Et donc du coup, ça conduit à un désintérêt. De la même manière dans le couple, que quand on se retrouve à libérer du temps parce qu'on n'est plus en train de faire du travail gratuit pour l'autre en permanence dans un overgive de travail, que c'est très difficile de maintenir ce rythme-là, quand on est en couple, dans un couple qui à la base était inégalitaire et qu'on veut bosser sur cette inégalité. Quand on sait pas soi-même ce qu'on a envie de faire pour soi, quand on n'a pas des projets à soi, quand on n'a pas des choses qui comptent pour nous, quand on n'a pas eu la possibilité de développer des goûts à soi, en fait, de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que on est dans un monde qui nous a fait croire que nous, en tant que femmes, notre projet, c'était le couple, que notre grand projet dans la vie, c'était ça. Et donc, du coup, comme ça vampirise toute notre énergie, et que ça nous empêche, d'accéder mentalement à d'autres projets, à ce qu'on a envie de faire, aux choses qui comptent pour nous en dehors du couple, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment propres à nous, qui sont pas du ressort du couple, ben, ça crée un vide. Ça crée un vide, et ce vide, il est rempli très facilement par ce travail gratuit en direction du couple, en direction de l'autre. Et si on n'a pas de projet à soi, ben, en fait, ça devient plus simple de faire pour l'autre. Ça devient plus simple de faire en sorte que le couple, ce soit notre projet. Donc pour moi, en fait, cet overgive d'attention, qui est juste une direction énergétique d'intention, enfin, c'est vraiment juste vers quoi est tendue notre volonté. C'est simplement une question de direction. Ben, cet overgive-là, pour moi, il est à la racine de toutes les inégalités dans le couple. Il est à la racine du fait qu'on donne trop de temps, trop d'argent, trop de travail, qu'on s'étiole là-dedans, qu'on arrive au burn-out, etc. Et c'est vraiment le truc qui est au centre. Donc vraiment, je trouve que cette position de Ken, on voit bien que c'est absurde parce que là, les rôles sont vraiment bien inversés. On vit cette vie absurde en tant que femme. Et donc pour finir, je vais remettre un peu ma casquette de scénariste, ce que j'aurais aimé voir dans Barbie. En tant que scénariste et en tant que féministe et en tant que spécialiste de la l'égalité amoureuse, j'aurais aimé voir une Barbie qui explore qui elle est en dehors de son travail, parce qu'effectivement c'est un peu ce que montre Barbie, c'est qu'on a pensé à tort que l'émancipation des femmes viendrait par leur travail, et puis on se rend compte que c'est pas ça, que c'est un féminisme très blanc, très privilégié, et qui ne conduit pas réellement à une égalité dans la vie réelle. Donc ça c'est un point que j'ai trouvé vraiment très chouette, qu'à la fin, quand elle arrive dans le vrai monde, j'ai cru qu'elle allait à un entretien d'embauche, et je me suis dit, oh non, ils ont tout raté, elle est à nouveau obnubilé par son travail. En fait, non, c'est un détail très drôle, rendez-vous chez les gynécos. Donc, bon, c'était un moyen de montrer, effectivement, je pense. Alors, je sais pas si c'était directement la volonté des scénaristes de la sortir de la question du travail ou si c'était juste une bonne blague facile à faire. Mais voilà, j'aurais aimé que Barbie découvre qui elle est en dehors de son travail. Et j'aurais aimé voir Ken justement développer ce truc qu'il aime. Donc par exemple, peut-être une fin où Ken développe dans ce monde de Barbieland un ranch, puisqu'effectivement il a l'air d'avoir un vrai kiff pour les chevaux. Je pense que ça aurait pu être chouette. Et puis du coup, comme je suis une grande amoureuse de l'amour, bah, pourquoi pas le faire matcher avec une Barbie. Barbie équitation et dire voilà ils matchent super bien tous les deux et c'est mignon et en fait sa dépendance affective sa dépendance à l'attention de l'autre cette overgive d'attention à l'autre elle peut pas être soignée en un seul film parce que du coup elle n'est pas du tout traitée dans ce film c'est pas du tout abordé juste la seule question qui est abordée c'est cette histoire de patriarcat qu'ils auraient pu traiter par rapport à cette question d'attention et qu'ils ont un peu raté je trouve. Mais du coup, ça aurait été un premier pas, dire voilà, bon, Ken est toujours en recherche d'attention de Barbie, mais il commence à mieux se connaître, et en se connaissant mieux, bah, il connecte avec quelqu'un qui lui ressemble et avec qui il y a un vrai échange d'attention égalitaire. Voilà, j'aurais aimé voir plus de place pour de l'égalité amoureuse, ça m'aurait fait plaisir, mon petit cœur. Et le film de Barbie ne finit pas avec de l'égalité amoureuse, il finit en prétendant que le monde de Barbie est une telle inversion que les Ken obtiendront la même place que les femmes dans le vrai monde, alors même qu'on sait que le monde de Barbie n'est pas une vraie complète inversion. Voilà, donc il y a des points que j'ai beaucoup aimés dans ce film, des points sur lesquels je suis plus critique, mais parce que je crois que ça me plaît d'être critique, hein. J'ai un côté, voilà, une partie de moi qui est critique. Et puis un autre qui est ravi de pouvoir montrer aux femmes cette absurdité de l'overgive de l'attention, de le montrer par ce biais de ce personnage de Ken qui ma foi, était un personnage souvent bien traité dans le film et puis avec des raté. Mais voilà, ma conclusion sur Barbie, ce que j'aurais aimé y voir, ce que j'en ai pensé. J'adorerais que tu me dises ce que tu as pensé de ce film. C'était quoi tes moments préférés? Est-ce que t'as kiffé le côté féministe, empouvoirant? N'hésite pas à me taguer si tu veux en parler. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur le film de Barbie. J'espère qu'il t'a plu. Je t'envoie du love et te dis à bientôt.